Merci de choisir Radio Nekeluka pour vous informer. Il est justement 13h et Inès Lorngopo est avec nous pour le journal. Inès Lor, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane-Boudé et bienvenue à tous dans cette édition. Voici les titres. Aujourd'hui, 13 janvier, une date gravée dans la mémoire de nombreux centrafricains, l'attaque repoussée de la CPC sur Bangui, un retour sur cet événement qui fait exactement un an ce jeudi. Un an après l'attaque de Bangui, quelle est l'ambiance dans les quartiers les plus touchés par les affrontements? Reportage à suivre dans ce journal. Au sommaire également, le manque d'enseignants qualifiés reste un problème persistant en République centrafricaine. À Bossembélé, les élèves se disent être confrontés à d'énormes difficultés qui minent leur éducation. Football, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La deuxième journée démarre aujourd'hui avec les rencontres Cameroun-Éthiopie à 17h et Cap-Vert-Burkina Faso à 20h.
Voilà un an, Inès, jour pour jour, ce 13 janvier, que la coalition des patriotes pour le changement CPC a tenté de prendre le pouvoir à Bangui.
Les attaques avaient fait de nombreux morts et des blessés parmi les civils, les militaires et contraint l'État à instaurer un couvre-feu et un état d'urgence. Le rappel des faits avec Jean-Fernand Quina.
De ce 13 janvier 2021, les Banguissois retiendront les tirs à l'arme lourde et à l'arme automatique dès 5h du matin aux sorties nord et sud de la capitale. Des attaques coordonnées, revendiquées par quelques groupes armés signataires de l'accord de paix du 6 février 2019 emmené par François Bozizé. Le gouvernement dénonce alors une tentative de coup d'état du candidat écarté de la campagne présidentielle. En effet, l'ancien président redevenu rebelle avait fédéré un mouvement d'insurrection par l'accord de Kambakota qui fonde la CPC. Aussitôt ce 13 janvier 2021, les FACA, appuyés par leurs alliés rwandais et russes ainsi que la MINUSCA, repoussent l'attaque et procèdent à des arrestations. Dans la foulée, un couvre-feu est instauré sur tous les territoires et l'Assemblée valide l'état d'urgence qui donne plus de pouvoir à la police. Ce putsch manqué a d'abord provoqué un cycle d'insécurité avant la reconquête des villes occupées et la libération des axes stratégiques à l'exemple du corridor Bangui-Garamboulaï. Les conséquences des attaques sont incalculables, notamment sur la population dont plus de la moitié a besoin d'assistance humanitaire et manque de tout.
Et puis Inès, un an après cette attaque repoussée par l'armée nationale, ses alliés et la MINUSCA, quelle est l'ambiance dans les quartiers touchés par les combats?
Ceux qui ont fui le secteur pour se mettre à l'abri ont tous regagné leur domicile. Les activités s'y déroulent normalement et les patrouilles des forces de défense et de sécurité rassurent les habitants. Rolf Sevdomia le s'est rendu dans le nord de Bangui, précisément au PK16 route de Damara. Reportage.
Ici, au village Kpangba 1, à 16 km de Bangui, route de Damara, le jeu de dames est un moyen de distraction par excellence. Quand ils sont en permanence, la plupart des jeunes se retrouvent sous ce mongué pour faire des calculs sur un plateau et avec des pions. Josué a mis sa plus belle chemise pour venir ici. Le 13 janvier 2021, au même moment, il fuyait le secteur attaqué par la CPC. Il y est revenu un mois plus tard et depuis lors, il ne craint plus rien.
Après l'attaque des rebelles CPC dans notre localité, on était un peu secoués. Et après, nous étions obligés de déménager et de regagner la maison après. Pour le moment, nous sommes sereins dans notre quartier. Les activités ont repris normalement, comme au marché, dans le quartier, tout le monde se porte à merveille.
Près du Mongué, une maison en tôle avec encore des impacts de balles sur la toiture, les murs et les fenêtres. Ici habite Gypsy, une infirmière, qui s'assoit dans un fauteuil à côté d'un puits et regarde vers la colline d'où les rebelles étaient arrivés. Ce chemin ne lui fait plus peur.
Ils étaient partis pour de bon. On dort bien, on se réveille. Il n'y a aucune chose qui peut nous faire peur. Ça fait que nous sommes là parce que c'est chez nous, on ne peut rien faire. Nous sommes là, mais on a des chocs après ça parce que dès que moi, je suis... Un coup de feu quelque part, ça me fait peur.
À quelques pas, nous rencontrons Samson, un menuisier. L'année dernière, il a vécu cette attaque dans la chair. Il ne veut plus revivre cela.
Sans la paix, nous ne pouvons pas marcher n'importe comment, nous ne pouvons pas travailler. Et s'il y a la paix, on peut travailler en toutes sortes. S'il n'y a pas la paix, vous aussi, vous ne pourrez pas même arriver ici chez nous pour nous demander de quelque chose ici. Mais nous voulons seulement la paix. Nous disons au gouvernement que sans la paix, tout ne marche pas.
Un an après les événements tragiques qui les ont forcés au départ, les habitants de Kwangba 1 sont rentrés. Tous se souviennent, mais tous ne préfèrent plus y penser.
Parlons toujours de la situation sécuritaire. Le groupe de travail de la société civile JTSC alerte sur la recrudescence de l'insécurité dans certaines localités de Centrafrique.
Selon le JTSC, les Troisières et certaines forces alliées au gouvernement commettent des violences physiques sur des civils. Ils demandent au gouvernement d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Paul Cresson Beninga, son porte-parole avec Armand Nguenji.
Nous remarquons une recrudescence de violence dans l'arrière-pays, notamment dans les villes et les communes que Man, Ngaoundaï, Boyo, la ville Bria, commune de Ndassima et bien d'autres. Et ces violences armées sont entretenues malheureusement par les groupes armés d'une part, mais aussi par certaines forces alliées au gouvernement. Vous voyez dans les zones de Ngaoundaï et de Man, le mouvement 3R est encore actif dans ces zones-là et les populations sont prises en otage. Et il en est de même dans certaines localités où se trouvent les forces alliées, notamment les forces russes, où la population est également prise en otage, les biens de la population sont pillés, certaines personnes sont violées. Les témoignages, bref, qui nous remontent de terrain, laissent entendre que la population entre le marteau et l'enclume.
Éducation dans ce journal, le manque des enseignants qualifiés est un problème persistant en République centrafricaine.
À Boussembélé, dans l'Ombilapoko par exemple, les élèves eux-mêmes se plaignent de leur situation et ils disent être confrontés à d'énormes difficultés qui minent leur éducation. Armand Nguindi leur donne la parole.
Il est 10h30, nous sommes dans le marché central de Boussembélé en face de la mairie. Curieux, un groupe d'élèves viennent à nous pour dénoncer les difficiles conditions de leurs études. Sidras, en classe de seconde, se plaint du manque d'enseignants qualifiés.
Depuis la rentrée scolaire, nous n'avons pas de professeurs de mathématiques et de SVT. Nous n'avons que 5 matières. On affecte les enseignants, ils refusent de venir prendre service, disant qu'il n'y a pas de radio ici et tout cela. C'est pourquoi ils refusent de venir en province. Ils ont même avancé comme argument que les jeunes sont trop têtus à Boussembélé. Ce n'est pas vrai. Ils refusent sans raison de venir ici. C'est tout.
John a abandonné les études en classe de première. Il est désormais praticien des petits commerces au marché de Boussembélé. Conscient que le temps passé à l'école ne lui a pas donné les qualifications espérées, il y a renoncé.
Depuis que j'ai abandonné l'école, je constate qu'il n'y a pas de bonne formation. Imaginez-vous, un élève part à l'école à 7h, à 8h, il est au marché ou en salle de ciné. Il parle du manque de professeur. Regardez, lui par exemple, il dit qu'il est en classe de seconde. Demandez-lui de construire une phrase en français. Mais c'est difficile. Voilà la réalité de l'école d'ici.
Exaspéré, Foxy, 17 ans, seconde B, elle lance un SOS au gouvernement.
Aidez-nous en nous envoyant des enseignants qui ont de niveau pour nous former. Comme ça, nous allons vous remplacer demain.
Ce manque cruel d'enseignants qualifiés ne concerne pas seulement le lycée. Les écoles primaires ne sont pas épargnées. Joséphine, une parente d'élèves très remontée s'inquiète de l'avenir des enfants de la localité.
Il n'y a pas de bon enseignement. Ils ont recruté des gens qui n'ont pas de niveau pour enseigner nos enfants. Ils n'ont même pas un brevet de collège. C'est ce qui nous a poussé à inscrire nos enfants dans des écoles privées. C'est cher, plus de 30 000 francs CFA. Pour l'avenir de nos enfants, on est obligé. On se bat pour eux, mais il n'y a pas d'enseignants qualifiés.
Ce phénomène du manque d'enseignants qualifiés concerne tout le pays. Voici 3 semaines, les députés ont interpellé le gouvernement sur cette question cruciale. À ce jour, ils n'ont pas de réponse. Armand Nguindi, de retour de Boussembélé, Radio Ndekeluka.
À Boussangwa, dans l'Ouame, l'association des femmes baptistes pour le développement soutient la scolarisation des jeunes.
Riverdan, elle a mené durant un mois une campagne d'information de jeunes filles et garçons sur les méfaits de la grossesse non désirée, du mariage précoce et des violences faites aux femmes. Qui sont ces sensibilisateurs déployés sur le terrain? Précision de notre correspondant Raphaël Ganari.
Ces sensibilisateurs appelés communément relais communautaires sont d'abord formés sur les techniques de communication. Après cet apprentissage, ils échangent avec les jeunes des 4 arrondissements de la ville de Boussangwa, particulièrement les garçons et filles scolarisés sur les méfaits de la grossesse précoce. Sonia, l'une de ces relais communautaires, voit en cette activité l'unique moyen d'aider les élèves à poursuivre leurs études.
Les parents qui nous écoutent, il faudrait que vous soyez proches de vos enfants pour leur donner des conseils. Ces conseils peuvent les aider à réussir demain.
Âgée de 18 ans, élève en classe de première au lycée moderne de Boussangwa, Farel est profondément touchée par cette campagne.
Avec cette sensibilisation, je me suis rendu compte que nous nous trompons. Nous pensons que tout ce que nous faisons, c'est dans la logique des choses. J'appelle à mes camarades à se contenter de leurs études. L'avenir de demain, c'est nous les jeunes.
Il s'agit pour l'association des femmes baptistes pour le développement de Bossangwa de détourner l'esprit des élèves du comportement sexuel à risque. Nina, présidente de cette association, appelle à l'aide.
Nous voulons bien aller dans les quartiers et villages pour sensibiliser nos enfants sur ces problèmes, sauf qu'on n'a pas les moyens de le faire.
Financée par l'ONG Ourou, cette campagne ouverte le 12 décembre dernier a duré plus d'un mois. Raphaël Nganaré, Bossangwa, Radio Ndekeluka.
Actualité hors de nos frontières au Cameroun, la CAN se déroule sous tension sécuritaire.
L'hiver dernier, une fusillade qui a eu lieu hier dans la ville de Bouéa, dans la région du sud-ouest, a fait au moins deux morts et des blessés dans un grave. Ces tirs mortels ont retenti non loin du stade de Moliko, site d'entraînement pour les équipes du groupe F.
Et puis, Inès, les autorités maliennes protestent contre la violation de leur espace aérien par un avion français.
Selon VOA Afrique, la SEGNA, organisation de section des espace aérien, a signalé hier aux autorités maliennes une violation de leur espace par un avion militaire français. Dans un communiqué publié dans la soirée, le gouvernement malien assure avoir dénoncé cette violation de l'espace aérien du pays auprès des autorités françaises. Le gouvernement malien décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelle violation de leur espace aérien, ajoute le communiqué. La page sport, une présentation de Igor Diaskin-Senapa. Igor, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Football CAN Cameroun 2021, la deuxième journée du tournoi démarre aujourd'hui avec le match des Lions Indomptables.
Le groupe A jouera aujourd'hui au stade Omnisport Paul Biya d'Olembe. Cameroun Éthiopie à 17h et Cap-Vert Burkina Faso à 20h. Plus de détails dans notre journal de la CAN tout à l'heure à partir de 13h40. Hier, le Mali a battu la Tunisie 1-0 dans un match qui s'est terminé dans la confusion. L'arbitre zambien Gianni Zikazoué a arrêté la rencontre avant la fin du temps réglementaire. Plus de 40 minutes après le coup de sifflet final, le match a failli reprendre, mais les aigles de Carthage ne sont pas revenus sur la pelouse. Dans les autres matchs, la Gambie a dominé la Mauritanie 1-0 et la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à la Guinée équatoriale.
Football international toujours, Igor, le Real Madrid élimine le FC Barcelone et se qualifie en finale de la Supercoupe d'Espagne.
Tout à fait Inès, les Madrilènes ont pris l'avantage hier 3-2 au temps additionnel. Au temps réglementaire, le score était de 2-0. Les buts de Barça ont été marqués par Frankie de Jong et Ansu Fati. Côté Real Madrid, les buts ont été inscrits par Vinicius Junior, Karim Benzema et Federico Valverde. Aujourd'hui, Atlético de Madrid du capitaine des Fauves, Jofra Kondogbia, va affronter Athletic Bilbao dans la deuxième demi-finale. Le match est programmé à 20h au King Fahd Stadium à Riyad en Arabie Saoudite.
Nécrologie, les obsèques de Narcisse Dekezanti, secrétaire général de la Fédération Centrafricaine de Basketball, sont prévues ce samedi.
La dépouille sera d'abord exposée au Palais des Sports à partir de 9h avant l'inhumation prévue dans l'après-midi. La signature du livre de condoléances sera ouverte demain à 10h. De 10h à 16h au Palais des Sports.
Merci à vous, Igor Diaskin-Senapa. Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM. Merci à vous de l'avoir suivi.